Alors bonsoir. En cette nouvelle année que j'espère bonne heureuse pour tous. Et puis, je suis content de m'acquitter de quelque chose qu'on avait laissé en attente dans les cycles de l'histoire, l'origine des sciences. Il manquait toujours la conclusion. Entre-temps, essayer d'être enrichi d'autres appendices, parce que moi je pensais uniquement à Newton, et puis je suis tombé sur une histoire toute française que je vais essayer de vous raconter. Évidemment, je ne suis pas un spécialiste de Voltaire, donc ne me demandez pas trop de détails à propos de sa vie. Nous aurons donc trois personnages à voir, et aucun des trois n'est banal. Nous parlerons un peu de la vie de Newton avant et après la publication de son œuvre principale et très connue. Alors moi je suis de la vieille école et je dirais Principia, je ne dirais pas Principia. on parlera de Voltaire mais uniquement dans la phase qui nous intéresse, qui compte quand même une quinzaine d'années et plus. Donc c'est l'époque où Voltaire faisait des travaux scientifiques qui sont peut-être moins connus par le public et que les autres. Et finalement, on parlera de Madame du Châtelet, qui était jolie, qui était très intelligente, comme on va voir. Il y a une copie de son livre que j'ai mis en circulation. Elle est là, merci, tu peux le faire circuler. Et elle est morte toute jeune. Et finalement, elle a été pratiquement oubliée jusqu'à ce qu'une nommée Madame Elisabeth Badinter ne la ressuscite dans un contexte plutôt féministe, si vous voulez, alors qu'il n'y a aucune raison de... Le fait qu'elle soit une femme ajoute à sa gloire, mais finalement n'est pas un critère, parce que son œuvre a une valeur absolue. Ici, vous avez une figure à laquelle vous avez l'habitude déjà, c'est-à-dire à peu près la colocation dans les temps de cette personne. Et on en vient à la vie de Isaac Newton. Donc il naît dans une petite ferme que vous voyez en haut à droite. Il est orphelin quand il naît parce que son père est mort 3 mois avant sa naissance. Son père était un alphabète. Et la chose que Isaac a le plus apprécié de son père, qui s'appelait aussi Isaac, c'est qu'il a trouvé un cahier blanc. Et pendant toute sa jeunesse, Newton aura la préoccupation principale, ce sera de trouver du papier. Ce qui nous montre finalement qu'aujourd'hui nous sommes gâtés, mais à certaines époques, le problème n'était pas là où on le supposait. Sa mère s'est remariée quand lui, il a 3 ans. La mère était la sœur d'un pasteur. Elle a trouvé un autre, son oncle a trouvé un autre pasteur. La mère s'est mariée, mais à la condition de laisser les petits. Donc la mère est partie dans une autre ferme, en laissant Isaac avec ses grands-parents. Alors, lui, c'était un graphomane, on le verra tout à l'heure, donc il écrivait à tous ceux qui y arrivaient. Il n'y a pas un mot sur ses grands-parents, ce qui marque que finalement, il n'y a pas eu un rapport très affectif. Il va à l'école au village, dans l'école qu'on pourrait appeler primaire. Alors, il y avait un maître avec 80 élèves, et tout âge confondu. On commence à voir quand même qu'il est un garçon brillant. Donc après, il va à l'école dans la ville à côté. Il est en pension chez l'apothicaire. Et quand il a 16 ans, sa mère, qui est à nouveau veuve, revient avec 3 enfants et rappelle Isaac à la ferme pour se faire aider. Elle avait désormais deux fermes à gérer, donc la ferme qu'elle a héritée du premier mari et du deuxième. Alors Isaac à la campagne, il ne fait que de bêtises. C'est pas son travail. Et donc, son oncle pasteur et son maître d'école secondaire, si vous voulez, arrivent à convaincre la mère à lui faire continuer les études. Si bien qu'à 17 ans, il rentre à Cambridge. À Cambridge, à l'époque, elle était comme aujourd'hui, lui, il rentre au Trinity College, sauf que c'était une université religieuse. Donc, seuls rentraient ceux qui devaient ou qui voulaient devenir prêtres. Sa mère ne veut pas payer le frais, donc lui, il rentre comme subsize, c'est-à-dire, il y avait les nobles, les riches qui pouvaient se payer l'école, il y avait ceux qui ne pouvaient pas se payer, donc c'était les adjudants, si vous voulez, les serviteurs des riches, et lui, c'était serviteur des serviteurs. Et ça lui a pris quelques années, rien que pour se faire accepter comme étudiant normal. Ce qui fait que son caractère, qui n'était déjà pas très extraverti, à l'université, l'isole de tout le monde. Alors, les autres parlaient, jouaient, pensaient, et lui, il ne faisait qu'écrire. Donc, on a dit que Newton écrivait comme les autres parlaient. Et moi, j'ajouterais qu'il calculait comme les autres pensaient. C'est-à-dire que quand les autres rêvassaient comme ça, lui, quand il avait une idée, il prenait la plume et il calculait. Et il remplissait toujours tous les papiers qu'il pouvait trouver. Quand il a terminé ses études, donc il a vers les 23 ans, il y a une période assez néfaste à Londres, il y a une épidémie de peste, c'est l'époque aussi du grand incendie de Londres, en plus il y avait la révolution, mais en tout cas, pour ce qui concerne la peste, le seul remède c'était de s'enfuir de lieux habités. Donc lui, il revient à la campagne, il y passe 2 ans. Et pendant ces 2 ans, on dit que pendant ces 2 ans, il a construit toutes ses théories, c'est-à-dire il a inventé un nouveau genre de mathématiques, ce que nous appelons aujourd'hui les calculs différentiels et intégrales, et que lui, à l'époque, n'ayant pas de nomenclature, si vous voulez, il a appelé calcul de fluxion, c'est-à-dire quelque chose qui bouge, qui est en train de bouger, comment on calcule sa vitesse, son orbite, etc. Et puis, on dit que c'est aussi à ce moment-là qu'il a eu l'intuition d'assimiler la chute d'une pomme de son pommier à la chute de la Lune vers la Terre. On y reviendra plus tard pour voir exactement de quoi il s'agit. Voilà les années magiques, datées exactement. Il était aussi très bon expérimentateur, c'est-à-dire il ne se limitait pas à rêver, si vous voulez, ou à écrire, mais il faisait aussi des travaux pratiques. Par exemple, il s'est mis une allumette dans l'œil pour démontrer que c'était la région postérieure de l'œil qui donnait des sensibilités à une couleur plutôt qu'une autre. Et puis, il a fait sa célèbre expérience avec des prismes en verre. Si vous voulez, on avait déjà remarqué dans le passé que la lumière, en traversant un bout de verre avec un angle, sortait en plusieurs couleurs. Mais lui, il a construit toute une théorie, et il en a déduit donc que la lumière blanche, telle que nous la connaissons, est en réalité composée de différentes couleurs, comme l'arc-en-ciel. En haut à droite, vous avez ce qu'on appelle les disques de Newton, qu'on utilise dans les écoles, avec un moteur électrique, on les fait tourner, et les disques qui a toutes les couleurs deviennent blancs, pour celui qui les regarde. Il a aussi prouvé, si vous voulez, qu'après, chaque couleur de lumière voyageait d'une façon légèrement différente de la lumière d'autres couleurs, et que si on arrivait à mélanger toutes ces couleurs, on réobtenait une lumière blanche. Il a accompli, par exemple, une chose que tu dis sans lui connaître, une feuille est verte parce qu'il absorbe toutes les couleurs, les rouges, les jaunes, les violettes, sauf le vert. Donc la feuille verte refuse le vert, si vous voulez, et elle la renvoie vers nous. Sur la lancée, bon là après il retourne à l'école et il continue ses études il a déjà son diplôme, mais il continue ses études pour devenir vieil. Et ayant remarqué que inévitablement quand la lumière passe à travers des bouts de verre, elle se décompose en couleurs qui après voyagent chacun à leur compte, il en avait dit. C'est pas la peine de s'efforcer de faire des travaux très poussés pour faire des jumelles perfectionnées, parce qu'au-delà d'un certain agrandissement, on avait nécessairement une dégradation de l'image due justement à la dissociation de la lumière dans les différentes couleurs. Et il a donc inventé un télescope réflecteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lentilles sauf la petite lentille oculaire, et l'agrandissement et la collection de lumière est obtenu avec des miroirs qu'il a fabriqués lui-même. Et de ce fait, si vous voulez, il a obtenu un instrument très compact, beaucoup moins cher à fabriquer qu'un télescope optique. Et la nouvelle de cette invention est arrivée jusqu'à la Royal Society. Alors, la Royal Society, à la différence de l'Académie des sciences françaises, c'était une société privée. C'était quelques nobles qui se mettaient ensemble. Elle n'était pas privée, je crois qu'elle datait de 1666. Et dès qu'ils ont eu la nouvelle de cette invention, ils l'ont appelé à montrer son télescope. Alors lui, il a envoyé le télescope. Et je marquais là qu'il se heurte à Robert Hooke. Robert Hooke, à ce moment-là, il était le préparateur d'expérience de la Royal Society, mais il serait très rapidement devenu président de la Royal Society. Alors, c'était un physicien brillant, mais il avait la mauvaise habitude de vouloir tout savoir et tout faire. Et donc, dès qu'il a vu le télescope, il a dit, mais moi, ça, je l'avais déjà inventé. Pire encore, si vous voulez, Newton avait envoyé avec le télescope un article qui est paru dans les Philosophical Transactions, qui se publie toujours, où il avait expliqué à peu près sa théorie de la lumière, mais d'une façon, je dirais, très diplomatique. Il n'a pas dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il a toujours dit, il semblerait que, alors moi je fais un essai, je fais un autre essai, etc. Qu'à cela ne tienne, Hooke était un cartésien. Donc pour lui, la lumière, c'était des particules microscopiques qui se baladaient. Et il a dit, ça ne vaut rien du tout. Donc, du coup, Newton s'est senti... Ben, il était, disons qu'il était un peu susceptible éventuellement. Mais en somme, il avait fait de son mieux pour présenter son travail d'une façon professionnelle. Et il se voit tout de suite pris à part. Et donc, il se fâche. Et il dit que lui, il n'aurait plus rien écrit, qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec la Royal Society. Et donc, dans les années qui ont suivi, 13 années, si vous voulez, 12, il n'a plus rien publié. Il a plus bien, bon, il a continué à travailler, bien évidemment, mais il n'a plus rien fait. Alors, il s'est produit un événement fortuit. Il y a Sir Christopher Wren qui est un très bon mathématicien et qui était l'architecte de la cathédrale de Saint Paul, que vous avez peut-être vu à Londres, sinon vous aurez un portrait. On m'a dit que c'est un canalette, donc moi je fais confiance à mes amis. Ils font d'excellents gâteaux aux séries, donc bon, au passage. Et donc, ils viennent à une discussion avec Robert Hooke et Edmund Halley. Halley, c'est celui de la comète. C'est un jeune homme qui faisait partie de la Royal Society à l'époque, et c'était le seul avec lequel Newton a eu un rapport amical, si vous voulez. Et on verra l'importance de la suite. Donc, Warren dit, moi je mets en jeu 2000 livres pour celui qui démontrera que si l'attraction entre un astre et un autre décroît comme le carré, comme l'inverse de du carré de la distance, donc on dit comme R1 sur R carré, de cette hypothèse, on peut déduire les lois de Kepler. Donc les lois de Kepler, pour mémoire, c'est que toute planète autour du Soleil circule sur une orbite elliptique dont le Soleil occupe un feu, un foyer, pardon. Ensuite, il y a, quand la planète est plus proche du Soleil, la vitesse de la planète est plus grande, de façon que les petits triangles que je peux décrire en une seconde, par exemple, a toujours la même surface, que la planète soit près du Soleil ou éloignée. Et ensuite, la troisième loi qui dit qu'il y a une relation très précise, mais même simple, entre la distance d'une planète au Soleil et la période de rotation autour du Soleil. Alors, Robert Hooke, évidemment, dit, oh, mais moi, ça, je vais faire deux semaines, pas de problème. Bon, deux mois après, il n'a toujours pas fait. Halley, il n'était pas capable de le démontrer non plus, et va voir Newton. Et Newton, il dit, mais écoute, ça. Il fait la démonstration. Et Halley, il a dit, mais écoute, c'est pas possible. Si tu sais tout ça, il faut que tu l'écrives. Mais alors, Newton se met à écrire. Seulement, quand quelqu'un qui n'a rien écrit pendant des années se met à écrire, eh bien, c'est comme la diarrhée, hein, il y a tout le temps. Pendant deux ans, il a oublié, il n'a plus ni mangé ni dormi que par un intervalle. Et puis, il a pondu quelque chose de monumental. Cette œuvre, donc les manuscrits arrivent à un peu, si vous voulez, la première partie du manuscrit, ou ensuite le deuxième, arrive à la Royal Society, qui prétexte qu'ils n'ont pas d'argent pour l'imprimer. Et alors, Halley entreprend à ses frais de faire imprimer 250 copies de cette œuvre. Et en 1687, voilà, le philosophe et naturaliste Principia Mathematica. Alors, Newton a choisi un titre qui rappelle celui que Kepler, que Descartes avait donné à son œuvre, hein, les Philosophiae Naturalis Principia. Mais lui, il a ajouté mathématiques pour faire la différence. Et en effet, il n'est pas question de philosophie, si vous voulez, il n'y a aucune hypothèse gratuite, c'est une œuvre purement mathématique. Et du coup, si vous voulez, le monde découvre finalement des lois mathématiques assez simples qui régissent le fonctionnement de la plupart des phénomènes naturels. On y passera tout à l'heure. Ici, c'est juste un petit résumé, mais on va y venir un peu plus en détail. Alors, pour ceux qui sont allergiques aux mathématiques, ils ont à compter jusqu'à 4. Il y a 4 diapositives un peu techniques, et puis on reprend la vie de Newton. Donc, si vous voulez, faites une pause. Alors, le principe d'inertie avait déjà effectivement été formulé par Descartes, mais il est formulé ici dans un cadre qui n'est pas philosophique, mais qui est scientifique, et on va voir la différence. Donc, on le connaît très bien aujourd'hui, ce soir qui se trouve soit au repos, soit un mouvement rectiligne uniforme, continue dans son état, donc de repos ou de mouvement, tant qu'une force extérieure n'intervient pour modifier cet état. Ensuite, la deuxième loi, c'est pas des lois, c'est des principes. Et on va faire la différence tout à l'heure. Donc c'est une formule très simple, la force est égale à la masse multipliée par l'accélération d'un corps. Néanmoins, cette formule est une bombe, parce que d'abord, il n'existait pas auparavant un concept précis ni de force, ni de masse, ni d'accélération. Tout le monde croyait que la force appliquée à un corps, en réalité, imprimait une vitesse proportionnelle à la force, alors que c'est une accélération. Et encore plus, personne n'aurait jamais imaginé de multiplier deux paramètres, donc une masse et une accélération, pour obtenir un troisième paramètre qui n'est pas homogène avec les deux. Vous voyez, c'est comme si moi je multipliais du lait fois du vin pour avoir de l'essence. Ça ne vient pas à l'esprit. Et le troisième principe, c'est le principe d'action-réaction. Réaction, c'est-à-dire, si vous essayez de pousser avec une force de 5 kg l'air, vous n'y arrivez pas. Pour pouvoir pousser quelque chose, il faut que ce quelque chose réponde à votre effort avec une force égale et contraire. Il y a une petite figure de patineur sur la glace, alors si un patineur veut en repousser un autre, lui-même sera repoussé de la même façon. Je dis que c'est des principes, c'est-à-dire, on revient ici. Newton devait aussi, il devait choisir quel style de formulation donner à son œuvre. C'est-à-dire, il était habituel à l'époque de dire, voilà, on fait toute une théorie philosophique, et à la fin de toute cette charabia philosophique, on arrivait à expliquer une voie naturelle. Newton ne voulait pas faire ça, il a repris telle quelle la méthode d'Euclide. Alors, pour ceux qui étaient présents en première conférence, je vous rappelle que les éléments d'Euclide commencent avec un minimum de définition, c'est-à-dire un point, une droite, une surface, etc. Et ensuite, il pose cinq postulats, c'est-à-dire de propriétés qu'on prend pour bonnes sans pouvoir les démontrer. Les principes de Newton, ça échappe à la majeure part des gens, mais en réalité, c'est des axiomes, c'est des postulats. Il a repris la même formulation. On ne peut pas démontrer, si vous voulez, ces trois lois. Donc, ce n'est pas juste de les appeler des lois. Et, on verra plus tard, en Europe, personne n'a rien compris, si vous voulez, déjà de la façon d'attaquer les problèmes. Et il n'y a pas que ça, tout le monde connaît le principe de Newton à cause de la loi d'attraction universelle, qui est correctement formulée, c'est un peu plus compliqué de celle qu'on entend d'habitude, parce que c'est chaque molécule d'un corps, chaque petite particule, attire toutes les autres particules, que ce soit de ce corps, que ce soit de notre corps, n'importe combien éloigné, et elle en est attirée à son tour. Donc, du coup, on explique ce que les Grecs avaient déjà quand même compris, c'est-à-dire pourquoi la Terre est ronde, pourquoi la Lune et le Soleil sont ronds, c'est-à-dire qu'un corps rond, il pèse sur lui-même, et la seule forme, si vous voulez, qui soit stable et équilibrée, sous l'action de ce poids, c'est une sphère. Quitte à être une sphère un peu aplatie, comme la Terre, l'astre tourne sur lui-même à ce moment-là, ça fait un peu centrifugeuse, mais en fait, la forme en équilibre, c'est la sphère. Ce qui est aussi nouveau, c'est-à-dire que, c'est que tout le monde savait qu'une pomme tombe au sol ou qu'un objet peut être lourd, mais on n'avait jamais imaginé que cette action s'étendrait à des distances telles que la distance entre la Terre et la Lune ou la Terre et le Soleil. Et on verra tout à l'heure la similitude très exacte entre la chute d'une pomme et la chute de la Lune. Donc, dans le principe, si vous voulez, il n'y a pas que la loi des gravitations. Il y a tout un tas de choses. Et bon, il y a évidemment déduit les trois lois de Kepler. Je saute au point 3. il avait lu les lois de Kepler, il a pu calculer la masse de la Terre, du Soleil et de Jupiter. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est tout à fait faisable une fois qu'on a la loi des gravitations. Il a calculé très exactement l'aplatissement de la Terre au pôle, et il a dû attendre, comme on verra dans les expéditions de Maupert, Fillet de la Condamine, pour avoir confirmation de ce calcul. Il a pu expliquer aussi correctement la théorie des marées, c'est-à-dire l'action de la gravitation conjointe du Soleil et de la Lune sur les masses des océans, sur les masses d'eau des océans, alors qu'on se rappellera que Galilée avait été un peu condamné parce qu'il avait, quand il a dû sortir sa carte gagnante, il a sorti une théorie des marées qui était complètement imprévue. Ça faisait 2000 ans que personne ne comprenait, personne n'était plus capable d'expliquer le phénomène des marées correctement. Je dis plus capable parce que ce phénomène avait été expliqué au deuxième siècle avant Jésus-Christ par Séleucos de Babylone et Icare. On explique la nature des comètes. Les comètes, jusqu'à ce moment-là, étaient considérées des événements de mauvais augure. Justement parce qu'on ne les comprenait pas, elles arrivaient, elles repartaient, c'était complètement inexplicable, alors que si on dit que les comètes, c'est des astres comme les autres, elles viennent vers nous, elles repartent parce qu'elles sont attirées par le Soleil, à ce moment-là, non seulement elles deviennent des corps normaux, mais en plus, comme a fait Halley tout de suite, on peut calculer la période. Et en effet, en France, 75 ans plus tard, il y avait toute une équipe de mathématiciens qui travaillaient jour et nuit pour vérifier que la comète de Halley devait être à quel jour elle devait être. Bon, ils se sont trompés de 2 mois, alors que Halley s'était trompé d'un mois. Halley, en plus, ça n'a pas grand-chose à faire avec les principes, mais en somme, on s'est remis à regarder les étoiles. Chose qu'avant on ne faisait pas trop. Et du coup, Halley trouve que Hipparque avait raison, parce qu'Hipparque, au deuxième siècle avant Jésus-Christ, avait laissé un catalogue d'étoiles en disant, moi, il me semble qu'il y a quelque chose qui bouge, mais ma vie est trop courte pour pouvoir démontrer ça, donc pour pouvoir vérifier ça, donc je vais laisser ça à la postérité. Et bien, la postérité est un peu en retard. Bon, dans la mécanique de Newton, il y a aussi l'explication du phénomène de précession des équinoxes, c'est-à-dire la Terre fait une espèce de grosse toupie, elle fait ce que toutes les toupies font, c'est-à-dire si vous la poussez, si vous prenez pousser l'axe légèrement d'un côté, la toupie commence à tourner comme ça. Alors qu'est-ce qui pousse la Terre d'un côté? Qu'est-ce qui pousse l'axe terrestre d'un côté? Eh bien, c'est la présence de la Lune. Le fait que la Terre soit aplatie et que la Lune, si vous voulez, ne soit pas exactement dans le plan de rotation de la Terre, imprime à la Terre une force à laquelle elle est obligée de réagir en faisant comme ça. Bon, il a calculé la loi de refroidissement d'un corps chaud. Je ne me rappelle plus pourquoi, mais il y avait une bonne raison. Et puis, il a inventé la chaudière. Ce n'était pas dans les principes, il avait déjà inventé avant. Alors, voilà l'histoire de la forme. C'est la quatrième diapositive mathématique. Donc, après, c'est fini. Vous êtes dans un verger et vous voyez une pomme qui tombe. Alors, vous posez la question, quelle distance couvre la pomme en une seconde. 1 mètre, 2 mètres, 1 mètre, etc. Bon, ça, pour ça, il y avait une jolie formule, c'est la formule de Galilée pour la chute libre. Si on met t égale 1 seconde, le terme t carré disparaît parce qu'il devient égal à 1, et on voit que la distance que parcourt la pomme est égal à la moitié de l'accélération de gravité. Or, l'accélération de gravité, c'est 10 mètres par seconde, seconde. Et donc, on trouve tout de suite que la pomme tombe de 5 mètres en une seconde. Ça va jusque-là, c'est un peu... Bon, disons, il y a une formule pour faire couler, pour calculer la chute d'un grade. Cette formule, elle est très connue déjà depuis le temps de Galilée. Elle vous dit que la pomme tombe de 5 mètres en une seconde. Jusque-là, il n'y a pas besoin de Newton. Hein, tout le monde le savait. Alors Newton se dit, mais et si la Lune était une grande pomme qui tombe aussi sur la Terre? Qu'est-ce qui se passait? Alors voilà les coups de génie. On savait depuis le temps des Grecs que la distance entre la Terre et la Lune est égale à 60 rayons terrestres. Donc, si on prend la loi de la gravitation, la force que la Terre exerce sur la Lune, l'accélération de gravité de la Terre sur la Lune, elle sera égale à 1 divisé 60 carrés. Mais j'augmente, vous voyez, quand on dit l'attraction diminue comme 1 sur R carré, ça veut dire que si je double la distance, la force diminue d'un facteur 4. Je triple la distance, la force diminue d'un facteur 9. Je multiplie, je prends une distance qui est 60 fois plus grande, et la force diminue de 3600 fois. Alors, vous divisez 5 mètres, divisez 3600, et vous trouvez 2 mm. 1,4, pardon. Eh bien, c'est l'orbite de la Lune. Et comme Newton calculait toujours tout, il a dit, ah, c'est bon, c'est joliment approchant. Donc, pour conclure, c'est que la même loi donne très exactement la chute de la pomme et la chute de la Lune. Vérifiez. Ici, il y a un peu d'histoire, c'est-à-dire cette notion de l'attraction gravitationnelle qui décroît comme 1 sur R carré, finalement, est très ancienne. Elle remonte rien de moins qu'à 500 avant Jésus-Christ. Et tout le monde, pendant des siècles, a toujours admis ou pensé que l'attraction entre un astre et l'autre décroissait comme 1 sur R carré. Donc, ça nous donne deux commentaires. Le premier, c'est que c'est quand même curieux que tout le monde parle de quelque chose qu'il ne comprend pas. Et de ce fait, Newton a tiré une espèce de conclusion à lui, ou alors il avait déjà l'idée préconçue. C'est-à-dire, Newton croyait à une espèce de connaissance originale que l'homme possédait et qui nous est parvenue à travers les anciens royaumes, c'est-à-dire les Chaldéens, les Égyptiens, etc. Ces connaissances étaient transmises par les prêtres ou les sectes religieuses, et puis petit à petit, la connaissance s'est corrompue, c'est-à-dire s'est perdue. Il n'est là pas. Ça n'est pas dans les principes, hein, mais on le sait depuis qu'on a retrouvé le papier de Newton qui s'est perdu. Et puis, si on veut réapprécier l'œuvre de Newton, entre dire et faire, il y a la mer. On dit en italien, je ne sais pas comment on va dire en français. C'est-à-dire, on peut toujours tchatcher et dire là l'attraction gravitationnelle diminue comme 1 sur un carré, mais tant qu'on le demande, qu'on calcule et qu'on ne le demande pas, ce n'est pas encore fait et qu'on donne une formule exacte. Alors, on quitte les mathématiques et on reprend la vie de Newton. Il a à peu près la quarantaine et 44, je dis. Et tout à coup, un homme qui a toujours vécu dans son trou, c'est-à-dire qu'à l'université où il était, il avait une chambre, il était interdit à qui que ce soit de lui adresser la parole, il était toujours enfermé là, avec son four d'alchimiste, il y passait les jours et les nuits, et d'un coup, il se retrouve projeté sur la scène. Et il réagit très bien, c'est-à-dire il commence à en profiter, il s'organise pour en profiter. Donc, première chose, il quitte l'université de Cambridge sans dire au revoir à personne. Il va s'installer à Londres. Il siège au Parlement, mais ça c'est pour une autre histoire à côté qu'on touchera peut-être. Il fait venir dans son appartement une très jolie nièce, donc une fille de ce demi-frère, si vous voulez, qui s'appelait Catherine Barthes, elle était tellement jolie, elle avait 18 ans, et tout à coup l'appartement de Newton était toujours plein. Et entre autres, il y avait, si je me rappelle bien, il y avait toujours Jonathan Swift qui était là, et puis il y avait un lord de Halifax, qui était soi-disant le supérieur de Newton, mais bien qu'il était quelqu'un d'important. C'est bien qu'il a pu nommer Newton à la monnaie. Il a été d'abord inspecteur, ensuite directeur. Et en lui donnant aussi une position économique, si vous voulez. Et 5 ans après l'arrivée de la nièce à Londres, elle était la maîtresse de Londres. Mais Newton a aussi donné un mariage à son collaborateur le plus fidèle, avant sa mort. Newton est au Parlement parce que c'était une époque révolutionnaire à Londres, c'est-à-dire qu'ils ont chassé, pour la deuxième fois, ils ont chassé le roi, qui était Charles II, qui voulait rétablir. Qui voulait reprendre les droits qui avaient été donnés au peuple Parlement et qui en plus voulait introduire le catholicisme. Et donc, tout à coup, à l'université de Cambridge, on voit arriver un franciscain qu'il faut prendre comme professeur sans qu'il ait passé le test, si vous voulez, voulu. Et la direction de l'université refuse. Newton prend la tête à peu près de ce mouvement. Et donc, une fois que le roi Jacques II aura été chassé et aura été remplacé par William of Orange, lui, il est représentant de Cambridge au Parlement pendant 2-3 ans.